Bonjour à toutes et à tous, Alexandre Carrette au micro, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'invité de la semaine d'ONU Info Genève.
À Paris, il y a eu bien des révolutions depuis des siècles. Mais aujourd'hui, c'est la plus belle et la plus pacifique des révolutions qui vient d'être accomplie, la révolution pour le changement climatique. Merci. Vive les Nations Unies. Vive la planète et vive la France.
C'était il y a 5 ans, le 12 décembre 2015. Le président français de l'époque, François Hollande, se félicite de la conclusion de l'accord de Paris sur le climat à l'occasion de la COP21. C'est enfin une grande avancée après de nombreuses années de négociations et de crispations internationales. L'accord de Paris rassemble les nations autour d'un objectif partagé, déployer des efforts ambitieux pour lutter contre le changement climatique. Le but principal de cet accord est de maintenir l'augmentation de la température mondiale en dessous de 2 degrés. L'accord vise aussi à renforcer la capacité des pays à répondre aux conséquences du changement climatique. La plupart des pays ont aujourd'hui ratifié cette convention qui se veut contraignante et Joe Biden, le nouveau président élu américain, a promis un retour des États-Unis dans cet accord. Alors que les records de température s'enchaînent partout sur la planète, qu'en est-il de la mise en œuvre de l'accord de Paris 5 ans après sa signature ? Le monde est-il sur la bonne voie pour lutter contre les changements climatiques ? Quelle est la place de la Genève internationale dans ce processus ? Avec nous pour en discuter, j'ai le plaisir de recevoir Marie-Pierre Meganck, conseillère environnement et transport à la mission de la France auprès des Nations Unies à Genève, et Abdallah Moksit, le secrétaire général du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Ce sont nos invités de la semaine. Marie-Pierre Meganck et Abdallah Moksit, bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Un grand merci d'avoir accepté notre invitation. C'était encore dans l'actualité dans les journaux de ce matin. Un nouveau record de température, le mois de novembre 2020 est le plus chaud jamais enregistré selon le service européen Copernicus. Alors 5 ans après la conclusion de l'accord de Paris, où en est-on de cette révolution climatique dont se félicitaient François Hollande et la communauté internationale? Et que penser de cette litanie de records de température, Marie-Pierre Meganck?
Eh bien oui, en effet, 2020 est en passe d'être l'année la plus chaude jamais enregistrée. Moi, je dirais que nous sommes entrés dans l'ère des conséquences visibles des évolutions du climat. J'ajouterais au record de température l'augmentation des événements extrêmes climatiques, typhons, etc. Et que donc, c'est le moment d'entrer aussi dans l'ère d'une mise en œuvre accélérée des politiques climatiques et de remettre le climat au cœur de l'agenda climatique, bien sûr.
Même question, Abdallah Moksit. Comment peut-on analyser ces records de température ? Peut-on dire, selon les études du GIEC, qu'il y a eu quand même des améliorations dans la lutte contre le réchauffement climatique depuis ces 5 dernières années ?
Depuis le 5e rapport du GIEC, qui a été la base de l'accord de Paris, tout ce qui a été annoncé, on le voit, l'augmentation de température, l'accélération du rythme des phénomènes extrêmes, et bien entendu, l'explication est là, comme ça a été dit par ma collègue, il n'y a plus de doute par rapport à accélérer des changements climatiques, même après ces 5 années.
Marie-Pierre Meganck, j'aimerais maintenant qu'on retourne 5 ans en arrière. Vous avez participé aux négociations de la COP21 à Paris. Vous étiez dans les coulisses. Qu'est-ce qui fait, d'après vous, qu'on ait pu aboutir à un accord à ce moment-là, en 2015, après de multiples tentatives infructueuses ?
On vous dira que c'est l'esprit de Paris. C'est comme ça qu'on l'a appelé. C'est, en effet, l'accord de Paris, moi, je dirais que c'est l'aboutissement de 20 ans de négociations diplomatiques. Parce que c'est quand même l'aboutissement d'une négociation diplomatique qui ont commencé en 1992 à Rio, lorsqu'on a adopté la Convention cadre pour le climat, ponctuée d'avancées et d'échecs, et surtout l'échec de Copenhague en 2009, qui a fait penser qu'il fallait, disons, un peu changer de système. Effectivement, l'accord de Paris, à l'issue de ce processus, c'est une mobilisation exceptionnelle de la communauté internationale pour arriver à un texte pas très long, hein, 29 articles, 140 paragraphes, qui est un cadre d'action mondial pour lutter contre le changement climatique. Il y a 3 grands aspects, peut-être. D'abord, on est passé de la négociation à la réduction des émissions à l'idée d'une transformation économique avec comme objectif d'obtenir la neutralité carbone pour tous. On est passé aussi à l'idée d'une action globale et coopérative plutôt qu'un fardeau partagé, ce qui a permis de créer un processus universel avec des contributions nationales adaptées, dont on reparlera, je pense. Et on est passé aussi à 2 multiples mécanismes qui doivent aller tous ensemble plutôt qu'un accord rigide et contraignant, venant du bas vers le haut, avec un agenda de l'action, en investissant tout le monde, etc. Et je pense que c'est ces trois abcès mis bout à bout qui ont permis d'arriver à un accord, donc, comme j'ai dit, mondial, universel, dynamique, solidaire et nécessaire. Maintenant, on en est à la mise en œuvre. Il a été et il doit encore être perfectionné dans sa mise en œuvre, mais quand même.
Abdallah Moksid, je me tourne vers vous. Le GIEC participe activement à ces rondes de négociation qu'on appelle les COP. À l'époque, le groupe d'experts est lui aussi satisfait de l'accord?
Effectivement, je crois que voir qu'un accord qui a été obtenu, un accord universel avec un instrument scientifique à la base qui était résumé dans trois réponses que peut utiliser chaque chef d'État ou bien chaque décideur pour prendre la décision, c'était à l'époque une sorte de fierté pour le GIEC. Encore une fois, a permis de convaincre les chefs d'État pour prendre la décision. Quand on ne sait pas, on a le prétexte de ne rien faire, mais quand on sait, on doit agir. Et c'est ça exactement le rôle, l'instrument qui a été introduit par le cinquième rapport du GIEC à ce moment-là. Donc, c'est-à-dire, ne pas agir, c'est comme ne pas assister une planète en danger.
Alors justement, en parlant de l'action, Marie-Pierre Mégang, depuis la conclusion de l'accord, vous qui continuez à travailler sur ces matières liées au changement climatique, est-ce qu'on peut dire que la communauté internationale a pleinement pris conscience de l'enjeu climatique au-delà des discours?
La situation a certainement changé depuis 2015, en mieux, dans la prise de conscience. Il faut se rappeler quand même que c'est l'accord qui a été ratifié le plus rapidement de l'histoire, hein, en moins d'un an, et qu'il est quasiment universel. Il a 194 signataires et 189 ratifications, et il a été ratifié en novembre 2016. Donc ça, c'est quand même un signe. Il a résisté à toutes les critiques, il a surtout résisté à l'annonce du retrait, puis au retrait des États-Unis qui vont revenir. Et c'est d'autant plus notable que c'est la première promesse de la nouvelle administration américaine.
Marie-Pierre Mégang et Abdallah Moksid, vous travaillez tous deux au sein de ce qu'on appelle la Genève internationale. D'ailleurs, vous êtes amenés à travailler ensemble sur certaines thématiques. Est-ce que vous pourriez expliquer quel est le rôle de cette Genève internationale dans le domaine de la lutte contre les changements climatiques?
Oh, le rôle au complet, je ne sais pas, mais en tout cas, qu'à Genève, nous avons un lieu où on parle en profondeur des questions climatiques, j'en suis bien persuadée. Genève, c'est la capitale des objectifs de développement durable. Et donc, tout ce processus de transformation dont nous parlons, qui a été quand même, c'est ce que je disais au début et ce qu'a redit Abdallah, on est quand même passé de la réduction des émissions à la transformation de nos modes de vie, d'habiter, de vivre, etc., sur la planète. Tout ça, avec les institutions genevoises et toutes les grosses organisations, c'est le lieu. J'ajouterai un dernier mot quand même, c'est que Genève, c'est un lieu où on parle français et où on fait du multilatéralisme. Et donc, en tant que française et francophone, je pense que l'esprit de Paris a tout bénéfice à pouvoir aussi discuter en français. Ça, c'est un peu un clin d'œil, mais c'est important, je pense.
Monsieur Moksid, le fait que le GIEC ait son siège ici à Genève, c'est un atout?
Effectivement, je crois que en ajoutant par rapport à ce par Marie-Claire, je considère Genève, c'est d'abord un hub diplomatique et aussi un campus de toutes les disciplines qui sont liées au bien-être. C'est là où on voit un peu tous les aspects des droits de l'homme, l'Organisation mondiale de la santé, les réfugiés, tous les aspects. Et vous avez d'un côté notamment l'outil scientifique qui est représenté par le GIEC, en termes d'évaluation de la recherche en matière de changement climatique, qui est abrité par l'Organisation météorologique mondiale, qui est notamment l'agence d'excellence en matière de suivi du temps, du climat, et surtout donner tous les instruments pour faire face aux phénomènes extrêmes qui sont effectivement des impacts potentiels des changements climatiques si on n'agit pas dans la bonne voie.
Monsieur Moksid, on vit actuellement une période assez compliquée avec la Covid-19. Alors on a pu lire ça et là que la pandémie avait au moins eu le mérite de faire diminuer les émissions de gaz à effet de serre et donc d'une certaine manière d'avancer dans la lutte contre le réchauffement climatique. Est-ce que les études du GIEC confirment ce phénomène?
Certes, la pandémie ainsi que les mesures qui ont été prises par les gouvernements ont eu un impact clair sur la réduction des émissions et surtout sur l'amélioration de la qualité de l'air dans les pays. Quant à attribuer ça à une modification totale pour les changements climatiques, c'est un peu prématuré de le dire.
Justement, Abdallah Moksid, pour parler concrètement, beaucoup d'États se sont engagés à parvenir à la neutralité carbone. Quels devraient être les principaux changements à l'avenir au sein de la société pour parvenir à cet objectif?
Il est certes obligatoire de viser une neutralité carbone dans les dizaines d'années à venir pour essayer un peu de rester dans la logique de l'accord de Paris. Parce que c'est ça un peu le repère qu'on a dans les mains. Et bien entendu, sans cette neutralité carbone, ce qui est très, très important, c'est que pays côtiers ou des pays insulaires sont vraiment menacés de disparition si on ne prend pas les actions qui militent vers cette neutralité carbone.
Marie-Pierre Meganck, ce 12 décembre a lieu le sommet ONU Royaume-Uni à l'occasion de l'anniversaire des 5 ans de l'accord de Paris. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce sommet ?
Il faut remettre le climat au cœur de l'ambition collective. Et les anniversaires sont toujours une bonne occasion. Nous avons eu une année 2020, comme vous le savez, complexe. Nous avons eu une pandémie. Un des gros enjeux de la relance, c'est reconstruire en mieux. Et je pense que ce sommet doit permettre de bien penser que nous sommes dans une année charnière et qu'il est très important de reformater notre ambition et de se mettre sur une bonne trajectoire. Après, nous avons un peu de temps pour... Voilà.
Dernière question, Marie-Pierre Meganck. Vous avez évoqué le retour des États-Unis dans l'accord de Paris. Est-ce que, selon vous, ça peut insuffler une sorte de nouveau départ dans la mise en œuvre de cet accord ?
Un nouveau départ me paraît un peu surestimé. Il est bien évident que, en revanche, dans cette nécessité commune de relever l'ambition, d'avoir une dynamique collective de révision des contributions nationales, malgré un certain nombre de grands émetteurs qui sont encore réticents, etc., etc., le retour des États-Unis permet à la communauté internationale de parler d'une seule voix, etc. Donc, bien sûr que ça va aider. Après, un nouveau départ me paraît un peu surestimé. Voilà.
Madame Meganck et Monsieur Moxit, un grand merci d'avoir participé à cette émission. Marie-Pierre Meganck, je rappelle que vous êtes conseillère environnement et transport à la mission de la France auprès des Nations Unies à Genève. Et Abdallah Moxit, le secrétaire du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Et c'est la fin de cette édition. À la réalisation de cette émission, il y avait François Soubiguère. Je vous donne rendez-vous vendredi pour le journal de la semaine. L'actualité des Nations Unies continue sur le site web ungeneva.org et sur le compte Twitter en français ONU Genève. À très bientôt.